Chapitre 16. La question de la dette publique. Il existe deux façons principales pour un État de financer ses dépenses, par l'impôt ou par la dette. D'une manière générale, l'impôt est une solution infiniment préférable, à la fois en termes de justice et d'efficacité. Le problème de la dette est qu'elle doit le plus souvent être repayée, si bien qu'elle est surtout dans l'intérêt de ceux qui ont eu les moyens de prêter à l'État et à qui il aurait été préférable de faire payer ses impôts. Il existe cependant de multiples raisons, bonnes et mauvaises, pour lesquelles les gouvernements se retrouvent parfois à avoir recours à l'emprunt et à accumuler des dettes, ou bien à hériter de dettes importantes des gouvernements précédents. En ce début de XXIe siècle, les pays riches semblent enferrés dans une interminable crise de la dette. On peut certes trouver dans l'histoire des niveaux d'endettement public plus élevés encore, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de ce livre, avec notamment le cas du Royaume-Uni, où la dette publique a dépassé à deux reprises deux années de revenu national, une première fois à l'issue des guerres napoléoniennes et de nouveau à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste pas moins qu'avec une dette publique avoisinant une année de revenu national, environ 90% du PIB, en moyenne dans les pays riches, le monde développé se retrouve aujourd'hui avec un niveau d'endettement qu'il n'avait pas connu depuis 1945. Le monde émergent, qui est pourtant plus pauvre que le monde riche, à la fois en revenus et en capital, a une dette publique beaucoup plus modérée, autour de 30% du PIB en moyenne. Cela montre à quel point la question de la dette publique est une question de répartition de la richesse, en particulier entre acteurs publics et privés, et non pas une question de niveau absolu de la richesse. Le monde riche est riche. Ce sont ces États qui sont pauvres. Le cas le plus extrême est celui de l'Europe, qui est à la fois le continent où les patrimoines privés sont les plus élevés du monde, et celui qui a le plus de mal à résoudre sa crise de la dette publique. Étrange paradoxe. Nous allons tout d'abord commencer par examiner les différentes façons de sortir d'un niveau élevé de dette publique. Cela nous conduira à analyser ensuite les différents rôles que jouent en pratique les banques centrales pour réguler et redistribuer le capital, et les impasses auxquelles mène une unification européenne excessivement centrée sur la monnaie, et ignorant trop ouvertement l'impôt et la dette. Nous étudierons enfin la question de l'accumulation optimale de capital public et de son articulation avec le capital privé au XXIe siècle, dans un contexte caractérisé par une croissance faible et une possible dégradation du capital naturel. Réduire la dette publique, impôt sur le capital, inflation ou austérité. Comment faire pour réduire significativement une dette publique importante telle que la dette européenne actuelle? Il existe trois méthodes principales que l'on peut combiner dans diverses proportions. L'impôt sur le capital, l'inflation et l'austérité. L'impôt exceptionnel sur le capital privé est la solution la plus juste et la plus efficace. À défaut, l'inflation peut jouer un rôle utile. C'est d'ailleurs ainsi que la plupart des dettes publiques importantes ont été résorbées dans l'histoire. La solution la pire, en termes de justice comme en termes d'efficacité, est une cure prolongée d'austérité. C'est pourtant celle qui est suivie actuellement en Europe. Commençons par rappeler la structure d'ensemble du patrimoine national en Europe en ce début de XXIe siècle. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de ce livre, le patrimoine national avoisine actuellement les 6 années de revenus dans la plupart des pays européens, et il est détenu dans sa quasi-totalité par les agents privés, c'est-à-dire par les ménages. La valeur totale des actifs publics est du même ordre que les dettes publiques, autour d'une année de revenu national, si bien que le patrimoine public net est quasi nul. Les patrimoines privés se partagent en deux moitiés approximativement égales, les actifs immobiliers et les actifs financiers nets de dettes privées. La position patrimoniale officielle de l'Europe vis-à-vis du reste du monde est en moyenne assez proche de l'équilibre, ce qui signifie que les entreprises européennes comme les dettes publiques européennes sont en moyenne détenues par les ménages européens, ou plus précisément que ce qui est détenu par le reste du monde est compensé par ce que les Européens détiennent dans le reste du monde. Cette réalité est obscurcie par la complexité du système d'intermédiation financière. On place ses économies en banque sur un compte d'épargne ou un produit financier, puis la banque va les placer ailleurs. Et par l'ampleur des participations croisées entre pays. Mais il ne s'agit pas moins de la réalité. Les ménages européens, ou tout du moins ceux qui détiennent quelque chose, n'oublions pas que les patrimoines sont toujours très concentrés, avec plus de 60% du total pour les 10% les plus riches, possèdent l'équivalent de tout ce qu'il y a à posséder en Europe, y compris bien sûr les dettes publiques. Ajoutons que si l'on prend en compte les actifs détenus par les ménages européens dans les paradis fiscaux, alors la position patrimoniale réelle de l'Europe vis-à-vis du reste du monde devient nettement positive. Les ménages européens possèdent l'équivalent de tout ce qu'il y a à posséder en Europe et une partie du reste du monde. Comment faire dans ces conditions pour réduire la dette publique à zéro? Une première solution serait de privatiser tous les actifs publics. D'après les comptes nationaux établis dans les différents pays européens, le produit des ventes de tous les bâtiments publics, écoles, lycées, universités, hôpitaux, gendarmeries, infrastructures diverses, etc., permettrait approximativement de rembourser les dettes publiques. Au lieu de détenir la dette publique au travers de leurs placements financiers, les ménages européens les mieux dotés en patrimoine deviendraient directement les propriétaires des écoles, des hôpitaux, des gendarmeries, etc. Il faudrait ensuite leur verser un loyer pour pouvoir utiliser ces actifs et continuer de produire les services publics correspondants. Cette solution, qui est parfois évoquée le plus sérieusement du monde, me semble devoir être repoussée absolument. Pour que l'État social européen puisse remplir correctement et durablement ses missions, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la sécurité, il paraît indispensable qu'il continue de détenir les actifs publics correspondants. Il est toutefois important de comprendre que la situation actuelle, dans laquelle il faut verser chaque année de très lourds intérêts de la dette publique et non des loyers, n'est pas si différente que cela, puisque ces intérêts grèvent tout aussi lourdement les budgets publics. La solution de loin la plus satisfaisante pour réduire la dette publique consiste à prélever un impôt exceptionnel sur le capital privé. Par exemple, un impôt proportionnel de 15% sur tous les patrimoines privés rapporterait près d'une année de revenu national et permettrait donc de rembourser immédiatement toutes les dettes publiques. L'État continuerait de détenir ses actifs publics, mais la valeur de ses dettes serait réduite à zéro et il n'aurait donc plus d'intérêt à payer. Cette solution est équivalente à une répudiation totale de la dette publique, avec toutefois deux différences essentielles. Tout d'abord, il est toujours très difficile de prévoir l'incidence finale d'une répudiation, même partielle. De telles mesures de défaut complet ou partiel sur la dette publique sont souvent utilisées dans les situations de crise extrême de surendettement public, par exemple en Grèce, en 2011-2012, sous forme de « haircut » d'ampleur variable, suivant l'expression consacrée. On diminue de 10% ou 20% ou davantage la valeur des titres de dette publique détenus par les banques et les différents créditeurs. Le problème est que si l'on applique ce type de mesure à grande échelle, par exemple à l'échelle de l'Europe et non de la Grèce, qui représente à peine 2% du PIB européen, il y a fort à parier que cela déclenche des mouvements de panique bancaire et de faillites en cascade. Suivant l'identité des banques qui détiennent telle ou telle catégorie de titres, la structure de leur bilan, l'identité des établissements qui leur ont prêté de l'argent, des ménages qui ont placé leurs économies dans ces institutions, sous quelle forme, etc., on peut se retrouver avec des incidences finales totalement différentes qu'il est impossible de prévoir précisément. En outre, il est tout à fait possible que les détenteurs de patrimoine les plus importants parviennent à restructurer à temps leur portefeuille, de façon à échapper presque totalement à la haircut. On s'imagine parfois que la haircut permet de mettre à contribution ceux qui ont pris le plus de risques. Rien n'est plus faux, compte tenu des transactions incessantes qui caractérisent les marchés financiers et les choix de portefeuille, rien ne garantit que ceux qui seront effectivement mis à contribution soient ceux qui doivent l'être. L'avantage de l'impôt exceptionnel sur le capital, qui s'apparente à une haircut fiscale, est précisément que cette solution permet d'organiser les choses de façon plus civilisée. On s'assure que chacun contribuera à l'effort demandé et surtout on évite les faillites bancaires puisque ce sont les détenteurs finaux des patrimoines, les personnes physiques, et non les établissements financiers qui sont mis à contribution. Pour cela, il est bien sûr indispensable que les autorités publiques disposent en permanence des transmissions automatiques d'informations bancaires sur l'ensemble des actifs financiers détenus par les uns et les autres. Sans cadastre financier, toutes les politiques suivies sont hasardeuses. De plus, et surtout, l'avantage de la solution fiscale est qu'elle permet de moduler l'effort demandé en fonction du niveau de patrimoine de chacun. Concrètement, cela n'aurait pas beaucoup de sens de prélever un impôt exceptionnel proportionnel de 15% sur tous les patrimoines privés européens. Mieux vaut appliquer un barème progressif, de façon à épargner les patrimoines les plus modestes et à demander davantage aux patrimoines les plus élevés. D'une certaine façon, c'est déjà ce que font les lois bancaires européennes, puisqu'elles garantissent généralement, en cas de faillite, les dépôts inférieurs à 100 000 euros. L'impôt progressif sur le capital est une généralisation de cette logique, puisqu'il permet de graduer beaucoup plus finement l'effort demandé en appliquant plusieurs tranches. Garantie complète jusqu'à 100 000 euros, garantie partielle de 100 000 euros à 500 000 euros, et ainsi de suite, avec autant de tranches que cela paraît utile. En outre, cet outil peut s'appliquer à l'ensemble des actifs, y compris les actions cotées et non cotées, et non seulement aux dépôts bancaires. Ce dernier aspect est absolument essentiel si l'on souhaite véritablement mettre à contribution les détenteurs de patrimoine les plus importants, dont les économies sont rarement placées sur un compte chèque. Par ailleurs, il serait sans doute excessif de chercher à réduire d'un seul coup les dettes publiques à zéro. De façon plus réaliste, supposons par exemple que l'on cherche à réduire les dettes des États européens de l'ordre de 20% du PIB, ce qui permettrait de passer d'environ 90% du PIB actuellement à 70% du PIB, soit un niveau se rapprochant de la cible d'endettement maximum de 60% du PIB fixée par les traités européens actuels. Comme nous l'avons noté dans le chapitre précédent, un impôt progressif sur le capital prélevant 0% sur les patrimoines nets inférieurs à 1 million d'euros, 1% sur la tranche de patrimoine comprise entre 1 et 5 millions d'euros et 2% sur la tranche supérieure à 5 millions d'euros rapporterait l'équivalent d'environ 2% du PIB européen. Pour obtenir en une seule fois 20% du PIB en recettes, il suffit donc d'appliquer un impôt exceptionnel avec des taux 10 fois plus élevés, 0% jusqu'à 1 million d'euros, 10% entre 1 et 5 millions et 20% au-delà de 5 millions d'euros. Il est intéressant de noter que le prélèvement exceptionnel sur le capital appliqué en France en 1945, et dont le but était notamment de réduire massivement l'endettement public, avait un barème progressif montant graduellement de 0% à 25% pour les patrimoines plus élevés. On peut également obtenir le même résultat en appliquant pendant 10 ans l'impôt progressif avec les taux de 0%, 1% et 2% et en affectant les recettes au désendettement, par exemple au moyen du fonds de rédemption proposé en 2011 par le Conseil des économistes attaché auprès du gouvernement allemand. Cette proposition, qui vise à mutualiser toutes les dettes publiques des pays de la zone euro dépassant les 60% du PIB, en particulier celles de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne, puise à réduire progressivement ce fonds à zéro, est loin d'être parfaite. Il lui manque notamment la gouvernance démocratique, sans laquelle la mise en commun des dettes européennes ne peut fonctionner, comme nous le verrons plus loin. Mais elle a le mérite d'exister, et elle peut parfaitement se conjuguer avec un prélèvement exceptionnel ou décennal sur le capital.